Ce matin, je vous propose une méditation qui n'est pas vraiment la mienne. Pourquoi ? Parce que je me demandais, dans la préparation du message de ce matin, quel aurait été le sujet que j'aurais pu traiter, que j'aurais pu vous proposer. Et j'en parlais avec ma femme, et ma femme m'a dit « Qu'est-ce que t'as vraiment touché ?» Quelle a été une expérience? Parle d'une expérience qui t'a touché très profondément. Eh bien, ça m'a ramené peut-être sur quelqu'un qui n'est pas la première fois que je mentionne. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre que j'ai lu et relu à plusieurs reprises. Je l'ai traduit en italien. « La perfection à l'imparfait » de George Knight. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà lu, a déjà eu l'occasion de le lire. Dans ce cas-là, ça sera un peu moins drôle. Il y aura un peu moins de découvertes pour ceux qui connaissent déjà cet auteur et ce livre en particulier. Parce que j'aimerais aborder la question qu'il aborde dans le premier chapitre de ce livre, c'est-à-dire, c'est quoi le péché ? Péché, c'est aimer, tout simplement. Ça peut être un peu bizarre, dit comme cela, péché, c'est aimer. De quoi il s'agit exactement? Voyons voir. Manger du fromage, ce n'est pas péché. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On est d'accord, hein? Ça, c'est assez clair. Parfois, ce n'est pas si évident que ça, mais une fois qu'on a établi que manger du péché, ce n'est pas péché, je vais essayer de vous titiller un peu plus ce matin, hein? Donc, c'est un message qui est particulièrement adressé à un public adventiste. Alors, j'ai mis aussi des images. Ah, par contre, j'ai oublié de dire quelque chose, donc je fais juste vite fait marche à l'arrière. Les enfants, vous avez déjà eu une histoire très intéressante de la part de Marianne, mais celle-ci, c'est la première image. J'aimerais vous inviter à compter combien d'images y a-t-il dans mon PowerPoint? Voilà. Donc, on revient. 1, 2, je vous aide déjà. Et comme ça, je reviens à ma diapo de tout à l'heure. Donc, manger des rats, des serpents, des escargots et même du porc, ce n'est pas péché. Je vois des gens inquiètes déjà. Transgresser le sabbat, ce n'est pas péché. Alors je poursuis. Commettre un meurtre, ce n'est pas péché. Voler, ce n'est pas péché. Alors là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui commence à dire, oh là là, Giuseppe, il n'a vraiment pas bien dormi hier nuit, hein. Ce sont peut-être des péchés, mais ce n'est pas péché avec des majuscules. Péché, c'est, mes chers frères et sœurs, aimer. Voyons voir. Il est peut-être plus facile de comprendre la nature du péché si on considère le premier péché. Donc, on va se baser ce matin sur le texte du chapitre 3 de la Genèse, donc le péché original commis par Ève et Adam. Donc la question primordiale est la suivante. Eva a péché quand elle a pris le fruit ou avant de prendre le fruit? C'est une question centrale pour pouvoir comprendre la nuance qu'il y a entre le péché, avec des majuscules, et les péchés. Nous allons maintenant prendre le texte biblique, Genèse chapitre 3, verset 1. Vous pouvez garder vos Bibles ouvertes sur ce chapitre, parce que ça sera celui qu'on va utiliser pour la plupart du temps. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Intéressant, pourquoi est-il intéressant ce texte? Parce que on voit quelle est la stratégie d'attaque du diable. La première chose que le diable essaye de faire avec nous, c'est de nous faire douter de la parole de Dieu, de nous amener à nous demander si Dieu a vraiment dit ce qu'il nous a dit. Et si la grive a gagné cette bataille, à ce point-là, il a gagné la guerre, frères et sœurs. C'est un peu moins drôle. Continuons pour voir quelle est la deuxième stratégie. Genèse chapitre 3, versets 2 à 4. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Voici la deuxième stratégie d'attaque de Satan, c'est de nous faire douter du sérieux des propos de Dieu. Donc, un, son première attaque est douter, nous faire douter de la parole de Dieu, et deux, nous faire douter du sérieux de ce qu'il a déclaré. Et ce passage continue, Genèse 3, versets 5 à 6, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. On va s'arrêter ici, même si en réalité le verset continue, pour souligner encore un aspect de la ruse du diable. Parce que sa troisième étape, c'est de nous faire douter des bonnes intentions que Dieu a à notre égard. Donc l'idée de base est que Dieu veut nous empêcher de vivre notre vie pleinement, joyeusement, avec tous les bonheurs auxquels on peut penser. Et pour cette raison-là, on ne peut pas lui faire confiance. Alors, même si Dieu nous a créés pour savourer la vie belle telle qu'elle est dans sa plénitude, Satan vient nous dire « Dieu n'est pas digne de confiance. Tu peux douter de la parole de Dieu. Tu peux douter de la véracité et du sérieux de ses paroles et de la bonté de ses intentions. » Ce sont les conclusions naturelles auxquelles on arrive si on choisit de s'arrêter sur ce que le diable essaye de nous faire croire. Puisque Dieu et son action revient à ça, vous savez quoi? Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Et c'est exactement ce que Ève a fait au verset 6. Elle prit le fruit et elle le mangea. Mais attention, parce que quelque chose se passa dans l'esprit de Ève ou dans son cœur avant qu'elle ait cueilli le fruit. Au moment où elle avait pris le fruit, Ève avait déjà péché. Elle avait déjà pris une décision, c'est-à-dire, je sais mieux que Dieu ce qui est le bon pour moi. Elle avait rejeté sa parole et sa volonté et elle avait remplacé ce que Dieu lui avait dit avec sa propre sagesse et sa volonté. Donc, avant d'éteindre même sa main pour cueillir le fruit, et George Knight utilise une expression très belle et une image qui est très parlante pour moi au moins, elle s'était installée sur le trône de sa vie, au centre de l'univers, et elle avait déplacé le Seigneur pour faire cela. En fait, pour revenir au thème de la prédication « Péché, c'est aimer », ce que Ève a fait, elle a été concentrer ses affections sur elle-même, au lieu que sur Dieu, et c'est ça le péché. Ève commit le péché parce qu'elle s'était aimée, elle avait aimé son désir donc plus que elle n'aimait le Seigneur et la volonté du Seigneur. Donc, dans son cœur, on voit qu'il y a ce péché, écrit en majuscule, qui l'a conduite à faire un péché dans l'action. Mais l'idée de base, c'est toujours qu'il y a quelque chose qui se produit dans le cœur d'abord. Donc, une fois que ce péché, grand écrit, arrive à jeter ses racines dans notre cœur, eh bien là, il arrivera à produire des actions pécheresses. Donc, par conséquent, le péché porte au péché, dans cette logique-là. Jusqu'au point du chapitre 3, verset 6 de Genèse, Adam et Ève étaient en sécurité en Jésus, jusqu'à ce que cette décision soit prise. Et avec l'apparition du péché, la situation est renversée complètement. Donc, il passe d'être en sécurité à être perdu. Et les conséquences du péché se font sentir immédiatement au verset 7. Est-ce que vous avez déjà eu ce rêve gênant? Ça vous est déjà arrivé? Vous avez compris de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Un homme en caleçon dans son bureau. Ça nous est déjà arrivé peut-être à plusieurs d'avoir ce rêve de se réveiller. Moi, je l'ai déjà eu. Quand j'étais petit, je l'avais souvent. Voilà, ça peut se présenter avec plein d'autres variétés, un pyjama, un caleçon tout nu ou, je ne sais pas, un maillot de bain, ou habillé mais avec des pantoufles, des chaussons. L'idée, c'est quand on a ce mauvais rêve, ce cauchemar, c'est que peu importe les efforts qu'on essaye de faire pour s'habiller, pour se couvrir, pour se cacher du regard des autres, on est toujours sous les yeux de tout le monde. On n'est jamais à l'abri. Eh bien, ce que Adam et Ève ont ressenti après le péché, c'était à peu près ça. Ils ont ressenti cette sensation d'être complètement nus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils ont eu envie de se cacher. Donc, ils ont ressenti un sentiment de malaise face à leur nudité qui a été accompagné par un sens de culpabilité auquel il était impossible de s'échapper. Et ce sentiment, c'était un sentiment vraiment viscéral qui a suscité des conséquences, entre autres, les feuilles de figuier. Donc la Bible nous dit que Adam et Ève ont cherché à couvrir leur nudité, donc en d'autres mots leur culpabilité, avec les feuilles d'un figuier. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous couvrir avec des feuilles de figuier? Non? Ce n'est pas une grande solution et faut essayer pour y croire. Donc, les feuilles de figuier de Genèse 3 représentent quand même, pour que drôle ça puisse nous sembler aujourd'hui, un effort humain pour couvrir notre propre nudité. Dans ce cas-là, celle d'Adam et Ève. Donc, les feuilles de figuier, en gros, sont le témoignage qu'Adam et Ève ont essayé de résoudre leur problème de culpabilité avec leurs propres moyens. Donc, en gros, le salut par les œuvres. Et le deuxième résultat du péché suscita donc suscité un sentiment de malaise en présence de Dieu et une rupture avec lui. Donc ça, on l'a déjà vu, ils se sont cachés, Adam et Ève, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée que Dieu les voit. Donc ils vont se cacher de lui, ça on le découvre en Genèse chapitre 3, de 8 à 9. Et dans le restant des versets, on constate autre chose, c'est-à-dire que quand il y a une relation qui est brisée avec Dieu, il y a automatiquement une relation qui est brisée avec les autres. Donc on est éloigné de Dieu et on est éloigné de notre prochain, au point que Adam, quand Dieu lui pose la question qu'on connaît tous très bien, comment ça se fait que vous êtes nu, qu'est-ce qu'il fait? Il montre du doigt à sa femme et il l'accuse. Donc, une autre triste conséquence qu'on découvre, c'est le manque d'harmonie avec Dieu, le manque d'harmonie avec les autres, et évidemment aussi le manque d'harmonie avec nous-mêmes. Parce que dans le cas de Ève, elle aussi, elle n'était pas capable de dire « Oui, je suis aussi responsable, j'ai péché. » Non, Adam accuse Ève et Ève accuse le serpent. Donc parfois, ça nous apprend quelque chose quand même de très important, frères et sœurs, sur notre approche vis-à-vis du péché et des péchés. Parce que parfois, on aime tellement parler des péchés des autres, mais on ne se concentre pas sur les nôtres. On oublie qu'il y a dans chacun de nous cette réalité triste. Et cette spirale ne s'arrête jamais. On le voit dans la Bible après avec Caïn, Abel et l'interhistoire du monde. Dans Genèse 1, 26 et 27, on lit qu'Adam avait été fait à l'image de Dieu. Par contre, ses enfants seront faits à l'image d'Adam. Et c'est pour cela aussi que dans le livre Éducation, Ellen White parle de la tendance au mal dans l'humanité à partir d'Adam, ce qu'en gros Paul explique avec d'autres mots, avec d'autres paroles, en Romains 5, 12. Mais revenons à Ève. On a dit que le péché, ce n'était pas le fait de prendre le fruit, mais placer l'amour de Dieu, remplacer plutôt l'amour de Dieu pour quelque chose, donc le fruit, ou pour elle-même avant l'amour de Dieu. Dans la Bible, cet amour est décrit comme agapao, un sentiment spécial semblable à celui de l'amour de Dieu. Et Dieu le condamne chez le pharisien, comme on voit dans l'histoire de Luc chapitre 11. On sait aussi qu'il y a des masses, on le lit dans 2 Timothée 4, 10, qui avaient eu l'amour agapao pour le monde et donc qui s'étaient éloignés du chemin. 1 Jean 2, 15 nous parle aussi de la question. Donc, péché, c'est amour sur le mauvais objet, dirigé vers la mauvaise cible. Un peu pour revenir sur ce que Marianne disait tout à l'heure. C'est comme ça qu'on arrive, d'après George Knight, à expliquer ce paradigme des actions pécheresses d'un côté et une nature pécheresse de l'autre. Donc, reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est le premier pas vers le salut. Et cela, c'est bien plus qu'admettre qu'on a commis les péchés A, B ou C, pour le dire à la façon de Paul, « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je déteste. » Romains 7, 15. Donc, si on sous-estime le pouvoir du péché, croyant pouvoir résoudre le problème avec nos propres moyens, en se débarrassant des péchés A, B et C, on se trompe. Car même quand nous sommes libres des mauvaises actions A, B ou C, nous restons tout de même pécheurs. Donc, en d'autres mots, nous pouvons éviter de faire des mauvaises choses, mais cela ne va pas nous empêcher d'être égoïstes, méchants ou encore pire, fiers de notre bonté. Et Ellen White l'explique de façon très intéressante dans Parabole à la page 151. Il n'y a rien de plus offensant d'aussi dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et la propre suffisance. Ce sont les plus graves de tous les péchés. Donc le problème, c'est que quand je suis bon ou quand je crois être assez bon, eh bien, je n'ai plus besoin de qui ? Du Sauveur, parce que je suis tout bon, tout seul. Après, frère Knight explique toujours dans ce chapitre 1 ce que c'est la doctrine du péché et le chemin du salut. Et il utilise cette phrase précise que je trouve particulièrement intéressante. Le point de départ sur toute discussion sur le salut consiste en une juste compréhension du péché parce que le traitement doit être à la hauteur de la maladie. Donc pourquoi toute cette réflexion sur le péché et les péchés ? Car une doctrine faussée sur le péché, écrit bien grand, conduira à une doctrine faussée sur le salut. Donc, si nous voulons savoir comment les gens sont sauvés, alors il faut savoir d'abord de quoi ils doivent être sauvés. Donc, si le péché est une série d'actions vers le bas, alors le salut, explique Ferrer Knight, consiste, selon cette doctrine fausse, à accomplir une série d'actions vers le haut pour compenser. Donc, selon ce schéma, si nos actions sont en accord avec la volonté de Dieu, une fois vaincus tous nos péchés, alors on sera parfait. Mais cette idée n'appartient pas à Jésus. Ce n'est pas une idée qui appartient à la Bible. C'est une idée plutôt pharisienne. Pour le Christ, il ne s'agit pas de faire une compilation des vertus, mais plutôt de vivre une vraie et profonde transformation spirituelle. Donc, comme on le lit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, la solution, c'est de repositionner cet amour, ce agapao. Et avant de conclure, je demanderai aux enfants, est-ce que vous avez une idée de combien d'images j'ai montré ? Théo ? Vous comptez ? Ah, presque, presque. Quatre ou ? 24, très bien, c'était 24 images. Bravo, bien vu, bien compté. Être sauvé, c'est à la fois accepter la mort de Jésus comme notre substitut et avoir un cœur transformé. Donc un amour agapao recentré sur Dieu et sur les autres plutôt que sur nous-mêmes. Alors ma prière ce matin, c'est que nous puissions vraiment recevoir la clarté d'esprit de notre Seigneur pour savoir faire bien cette lecture, avoir le bon paradigme dans notre esprit et dans nos cœurs et savoir demander cette intervention à Dieu dans nos vies pour remettre chaque chose à sa bonne place. Que Dieu nous bénisse.